Bonsoir frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Nous venons de chanter des cantiques aussi beaux les uns que les autres, qui nous interpellent, qui nous encouragent à faire tout pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Comme on vient de le chanter, nous voulons voir Jésus. Pour que Jésus puisse se manifester, il faut que sa maison soit la maison qu'il veut qu'elle soit. Jésus a dit « Ma maison sera une maison de prière ». Vous êtes d'accord? Il l'a dit. Ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Donc, c'est la volonté de Dieu, c'est que les croyants prient. Quand un pécheur se repent, Dieu veut en faire un intercesseur. Lorsque quelqu'un vient à Jésus-Christ, il devient un prieur. Les chrétiens sont des témoins, mais ce sont des intercesseurs. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui n'entre pas dans la vie de l'esprit. On a chanté « Rends-moi participant de ta nature divine ». Ça serait incohérent de chanter ça et de ne pas avoir de vie de prière. Le Seigneur a institué la prière, il veut que nous veillons et que nous prions. Il veut surtout instituer la prière pour nous exaucer. Quand Dieu nous parle de prière, Dieu n'a une intention derrière la tête, c'est de nous exaucer. Mais voilà, la prière peut ne pas être exaucée. Dans le prophète Ésaïe, le livre commence avec ce reproche terrible. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. C'est terrible ça. Dieu veut que l'on prie, et quand les gens prient, il dit, quand vous priez, j'écoute pas. Bon, alors on va voir ce soir qu'il est important de faire en sorte que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. On a chanté « Montre-moi, quelle est ta volonté ?» On a prié pour que si quelque chose n'allait pas, Dieu nous le montre. Nous sommes là pour le louer, pour le bénir, pour amener des pécheurs à la croix, mais à des moments, il faut que les chrétiens sachent exactement où ils en sont par rapport à leur piété. Comme dans 1 Pierre au chapitre 3, au verset 7, après toute une série d'exhortations, le Seigneur Jésus rajoute, par le biais de l'apôtre Pierre, ceci, c'est la fin du verset 7. Nous allons lire la fin du verset 7 de 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, c'est la fin, la dernière phrase. Il y a trois phrases dans il y a deux phrases. La dernière phrase, qu'il en soit ainsi, vous y êtes ? Qu'il en soit ainsi par rapport à tout ce qui vient d'être dit, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc ce verset nous dit qu'il faut que certaines choses soient vécues afin que nos prières soient exaucées, ce qui prouve qu'il peut y avoir des obstacles à la prière. Vous l'aviez compris, ça, que là, il peut y avoir des obstacles. Et ça serait dommage de prier et qu'un jour Dieu nous dise, eh bien, quand t'as prié pour rien. Vous êtes d'accord avec moi? Ça serait terrible. Donc, on va voir ce soir quelques aspects. Alors, on va lire quand même la suite. Il y a deux autres instructions. Verset 8, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Voyez une instruction. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'injure pour l'injure. Bénissez, au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Regardez bien. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur et contre ceux qui font le mal. Vous voyez, il insiste un petit peu plus, et il indique, voilà qui est-ce que le Seigneur écoute. Le Seigneur, il écoute les justes. Vous avez vu cette expression qui revient souvent dans la Bible, les yeux du Seigneur sont sur les justes, verset 12. Ses oreilles sont attentives à leurs prières. Est-ce que c'est ce à quoi vous aspirez? Je répète ma question, est-ce que vous aspirez à ce que Dieu soit attentif à vos prières? Eh bien oui, Dieu entend vos réponses. Je ne vous pose pas des questions pour mettre de l'ambiance dans la réunion. Je vous pose des questions pour que vous puissiez comprendre que la suite est très importante. Dieu écoute la prière. Dieu exauce la prière. Dieu écoute la prière des justes. Le juste, je vous l'ai dit, c'est celui qui pratique la justice. Il est justifié par le sang du Seigneur, mais il pratique la justice. Vous vous rappelez quand Michée, cet homme de Dieu, s'interroge sur sa façon d'améliorer sa communion avec Dieu. On pourrait peut-être le lire si vous voulez, c'est dans les petits prophètes. C'est quand même important de comprendre d'abord ce qu'est la justice. Puisque la Bible dit que les yeux du Seigneur sont sur les justes. Est-ce que tous les chrétiens sont des justes? Tous les chrétiens sont justifiés, d'accord? Tous les chrétiens. À partir du moment où quelqu'un se repent de ses péchés, qu'il est passé au calvaire, qu'il a demandé pardon pour ses péchés, qu'il sait que le sang de Jésus le purifié, il est justifié. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est justifié qu'il pratique la justice. Et regardez, Michée s'interroge, c'est après les grands prophètes, vous savez, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Abdias, Michée, etc. Hein? Vous connaissez ces petits prophètes, et puis petits, ils ne sont pas petits. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais ils sont grands. Hein? Michée chapitre 6, il s'interroge, c'est un homme de Dieu, mais il s'interroge aussi sur sa communion avec Dieu. Quel que soit notre ministère ou notre service dans l'Église, ce n'est pas notre ministère qui est important. Ce qui est important, c'est notre communion avec Dieu. Michée l'indique bien, Michée 6, verset 6, « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel ? Pour m'humilier devant le Dieu Très-Haut. » Est-ce que c'est de bonnes questions, ça ? On voit un pasteur, un frère, un chrétien tout simplement, qui a envie d'améliorer sa communion avec Dieu. Est-ce que c'est bien ? Alors il pose la question, bon à l'époque c'était les sacrifices, donc « Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an ? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile ? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles ?» Voyez, il est là, mais qu'est-ce que je peux faire pour mieux servir Dieu ? C'était une très très bonne question. Nous, on ne poserait pas « offrirai-je des torrents d'huile ? Est-ce qu'on ne va pas poser la question des holocaustes, des veaux, etc. ?» Mais peut-être quelqu'un dirait « mais est-ce qu'il faut que j'aille à davantage de réunions ? Est-ce qu'il faut que je jeûne davantage ? Est-ce qu'il faut que je prie davantage ?» On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, et que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. On peut faire tout un tas de choses sans obéir à Dieu. Je le dis depuis longtemps et je le redis pour que nous ne devenions pas des religieux, des chrétiens de nom, des gens qui ont l'apparence de la piété, des gens qui ont que de la tradition. Le Seigneur Jésus dit un jour, mais j'en ai marre. Enfin, il dit ça, en fin de compte, je ne supporte plus vos cantiques. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et ce qu'il m'offre n'est que de la tradition humaine. Et Michée, au travers de la réponse de Dieu, nous montre ce que Dieu veut, c'est que nous pratiquions la justice. Et au verset 7 du chapitre 7, on voit qu'il a compris, il a fait ce que le professeur de philosophie a enseigné, il a pris la révélation et il la met en pratique et il répond pour moi, parce que c'est une affaire personnelle. Vous savez, la piété, c'est personnel. Vous ne pouvez pas forcer les autres, vous ne pouvez pas obliger les autres, c'est une affaire personnelle. Et il dit, pourtant c'est un pasteur, mais il dit, mais pour moi, il en fait une affaire personnelle. Moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Et qu'est-ce qu'il ajoute ? Mon Dieu m'exaucera. Il est dans un tel état d'esprit. Il a cherché Dieu, il a invoqué Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être un meilleur croyant ? Dieu lui dit, tu vas être un meilleur croyant. Eh bien, pratique la justice. C'est ce que nous allons voir ce soir. Nous devons comprendre si nous pratiquons la justice. Il y a énormément de versets dans la Bible qui parlent de la pratique de la justice. C'est ce que d'ailleurs on chante tout depuis 30 ans ou 40 ans. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ce qui est juste, ce que Dieu veut que je fasse. Vous connaissez ce texte dans le Proverbe, on n'est pas loin, dans les Proverbes 21. C'est une introduction, mais il faut qu'elle soit faite. Regardez, Proverbe 21, verset 15. Ce sont des versets qui sont extrêmement importants. Proverbe 21, verset 15, il y a une joie à pratiquer la justice. Il y a des gens qui sont, ils sont chrétiens, mais ils sont tristes parce qu'ils ne vivent pas ce que Dieu leur demande. Ils le font pour le faire. C'est un fardeau. Beaucoup de gens, c'est un fardeau. C'est ça la religion. La religion, c'est un fardeau. La grâce, c'est un plaisir. Proverbe 21, verset 15. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice. Voilà. Est-ce que ce que Dieu me demande de faire, c'est une joie ou est-ce que c'est une corvée ? Il faut que vous répondiez. Que vous vous répondiez. Dieu me demande de me sanctifier, on va le voir tout à l'heure peut-être, si on a le temps. Est-ce que c'est un fardeau ou est-ce que c'est un privilège de marcher dans la sainteté ? Un autre texte dans Ésaïe 64, c'est d'ailleurs ce verset qui m'a poussé à faire une étude sur la pratique de la justice parce que ça m'a montré qu'il y avait une grande bénédiction à vivre ce que Dieu nous demande. Pas le faire pour le faire. Quand on entend des gens, oui, je prie, mais ça ne sert à rien. Je fais ci, mais ça ne sert à rien. Voilà, ils ne pratiquent pas la justice. Ils ont une religion. C'est ça la religion. c'est mortel. Vous savez, il y avait la meilleure religion à l'époque. Hein, les pharisiens, ils avaient la meilleure religion. Vous avez vu ce qu'elle leur a fait faire, hein? Elle leur a fait crucifier le Seigneur. Ésaïe 64, verset 4. « Tu vas au devant de celui qui pratique, alors regardez bien, avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. » Surlignez-le, ce verset, méditez-le. Il y a trois attitudes qui font que Dieu va au devant. Il nous devance, il marche devant nous. Tu vas au devant de celui qui pratique avec joie la justice. C'est pareil dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, au chapitre 10. Dans le livre des Actes, la Bible le répète. C'est dit d'une manière différente, mais c'est exactement la même chose. Actes chapitre 10, versets 34 et 35. Et il faut que nous comprenions cela. Le problème, ce n'est pas d'avoir une dénomination, d'être dans une église, d'avoir telle ou telle religion. Le problème, il est là. Est-ce que je pratique la justice ? Acte 10, 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Alors ce soir, il faut que nous soyons à l'écoute. On a dit « Parle-moi, montre-moi. » Quelle est ta volonté? Vous l'avez chanté ce cantique? Vous l'avez chanté de tout votre cœur? Eh bien, Dieu va nous montrer ce que c'est que pratiquer la justice. D'accord? On a lu « Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières ». On a lu une ou deux instructions de plus et nous avons vu que Dieu est attentif à la prière des justes. Donc, ceux qui pratiquent la justice. Alors, on va commencer par la première instruction. La première instruction, elle est dans 1 Pierre au chapitre 1er, verset 13. On va en voir une quinzaine. On n'aura pas le temps de les développer, mais je vous encourage à le faire chez vous. Je vais toutes vous les donner de toute façon. Vous les notez, et s'il le faut, vous prenez un dictionnaire. Moi, je le fais régulièrement. Pourtant, je connais la signification des mots. Mais voyez, ça fait du bien de réentendre que comprendre, c'est prendre pour soi. C'est pas vrai? Bon, on va voir une quinzaine d'instructions. Et croyez-moi, s'il en est ainsi, si nous nous soumettons aux instructions que nous allons vivre, comprendre, et si nous les vivons, c'est ainsi que nous pratiquerons la justice et que Dieu exaucera nos prières. Car je le répète, Dieu a institué la prière pour qu'elle soit exaucée, bien entendu. Verset 13 du chapitre 1er. C'est pourquoi, il y a toute une introduction sur les salutations, saignez, alors peut-être c'est des mots que vous n'avez pas l'habitude de lire, saignez les reins de votre entendement. Première instruction. Je vous rappelle que dans les lettres originales, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. Nous, on comprend les choses au travers des versets. Mais n'oubliez pas que quand Pierre a écrit l'épître, il n'y avait pas chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, verset 1, verset 2, verset 3. C'était une lettre, elle fait un bloc, un ensemble. Bon, par contre, c'était intelligent de le séparer pour qu'on puisse les retrouver facilement. Saignez les reins de votre entendement. Les reins. Les reins, saignez les reins de votre entendement. Comment vous le comprenez, ce verset? Peut-être, qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'avez lu peut-être 50 fois, mais justement, vous êtes en train de réaliser. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ceindre les reins? Ça veut dire serrer les reins, entourer les reins, c'est ce que ça veut dire. On voit des psaumes, on chante, des fois tu me ceins de force pour le combat. On a plein de cantiques comme ça qui nous indiquent. Mais voyez, saignez. Les reins, et les reins, c'est quoi dans la Bible, etc. Voyez ? Est-ce que je comprends ? Jésus un jour a dit aux apôtres, mais vous avez compris toutes ces choses ? Ils ont dit oui. La suite montrait bien qu'ils n'avaient pas compris. Mais ils avaient entendu. Comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Les reins, symbole des pensées et des sentiments intérieurs. Cendre, ça veut dire qu'on va se protéger, on va affermir son corps. Il y a un texte où Jésus dit « Tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». Voilà, quelqu'un qui marche, vous savez, ils avaient des longues robes, les hommes avaient des robes. Et donc, lorsque les soldats s'habillaient, il fallait que cette robe soit relevée, et ils avaient une ceinture pour qu'ils puissent marcher sans être gênés. Saignez les reins de votre entendement. Et l'entendement, c'est la faculté de connaître et de comprendre. Saigner, ça veut dire que votre faculté de penser soit bien ferme, Que tout ce qui est intime à l'intérieur de vous, tout votre être intérieur, soit bien sain. Saignez les reins de votre entendement. Ça veut dire, Dieu a dit quelque chose, je le crois. Vous savez quand Dieu dit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, il ajoute, mais au reste, c'est-à-dire en plus, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, dit-il. Et le Dieu de paix sera avec vous. Saignez les reins de votre entendement. Ça veut dire, voilà, ce que Dieu a dit, je le crois. Ce que Dieu me demande de faire, je le fais. C'est ça, ceindre les reins. Il y a des chrétiens qui ont dit, mais vous savez, vous, la prière, c'est important pour vous, je prie, mais voyez. Non. Quand on commence à remettre en question la prière, notre façon de penser, notre piété est une piété qui est en train de s'étourdir. Ce n'est pas possible. Cendre, vous voyez, c'est la première instruction pour que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. C'est-à-dire que notre façon de penser doit être saine. Il y a un proverbe qui dit « L'homme est tel que sont les pensées de son âme ». Et mes frères et sœurs, nous devons veiller sur nos pensées. Quand Dieu dit quelque chose, il l'a dit. Et il faut le croire. D'accord ? Alors, j'ai peut-être un peu insisté sur cette première instruction, mais c'est pour vous aider à prendre un dictionnaire et à réfléchir. Rappelez-vous, recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Et les chrétiens, ils laissent leurs pensées aller. C'est pas à nos pensées à nous contrôler. La Bible dit qu'il faut amener nos pensées captives. C'est à nous de contrôler nos pensées. Vous ne trouvez pas que ça part dans toutes les directions des fois ? Non ? Ça ne vous arrive pas ? De voir que dans la tête, ça part d'un peu partout, oui ou non? Alors c'est pour ça que c'est à nous de veiller. Il le dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous devons renverser les forteresses de nos raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Non, ce que je suis en train de penser, c'est pas bien. Je m'inquiète, ça va pas. Je refuse de m'inquiéter. C'est ça, ceindre les reins de son entendement. Et c'est pour ça que je vous encourage à prendre un dictionnaire. Peut-être que vous êtes même déjà professeur ou autre, mais moi je vous dis, quelle que soit notre formation, notre éducation, je crois que c'est bien parfois de dire, mais tiens, à quoi il correspond ce mot ? À quoi il correspond ? Deuxième instruction, soyez sobre. Il y a plusieurs textes dans la Bible qui nous demandent d'être sobre. Sobre, ce n'est pas que par rapport à l'alcool, c'est par rapport à tout. Soyez sobre en toutes choses, dit la parole de Dieu. En parole, est-ce que c'est important, la sobriété ? Ben ouais. Est-ce que vous ne trouvez pas des fois qu'on parle trop ? Sérieusement ? Non ? On parle trop, des fois on parle pour rien dire. Et l'apôtre Jacques le dit, mais ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. C'est ça la sobriété, je suis lent à parler, ça j'aurais pas dû le dire. Vous ne regrettez pas d'avoir des fois dit quelque chose sur quelqu'un ? Allez, on est entre nous. Est-ce que ça n'arrive pas des fois ? Sérieusement ? Vous regrettez pas des fois d'avoir dit un truc ? Ben ouais, on est tous à la même enseigne. Soyez sobre, soyez lent à parler. Seigneur, aide-moi. C'est une instruction. Ça peut nous jouer des tours, parce qu'après ça peut nous amener à de la médisance. Vous allez me dire, c'est pas de la calomnie, on va y venir. Mais quand même, c'est pas bien. Quelle est la différence entre la calomnie et la médisance ? La calomnie, c'est dire des choses qui sont pas vraies. Tandis que la médisance, c'est dire des choses vraies, dans l'intention de nuire. On peut dire de quelque chose, quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien. Vous comprenez ? C'est vrai, il l'a fait. Mais est-ce que c'est toujours utile de le dire ? Et si on le dit dans l'intention de lui nuire, c'est de la médisance. D'ailleurs, c'est au chapitre 2, on n'y reviendra pas donc. Vous voyez, chapitre 2, « Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. » Vous voyez, ça c'est une instruction de plus. Voilà. Bon, c'est vrai, et si on l'a fait, il faut demander pardon. Oh, Seigneur, j'ai parlé de cette personne, je demande pardon, c'était pas édifiant. Je te demande pardon. Vous savez que Dieu pardonne. Et quand on a été médisant, même si c'est vrai, parce que la médisance, c'est ça, c'est un rapport, rapporter un fait vrai. Seigneur, pardonne-moi, je veux m'en tenir. Peut-être qu'une des meilleures façons de lutter contre la médisance, c'est de lire régulièrement 1 Corinthiens 13, et vous connaissez ce chapitre. On va juste relire les deux versets qui nous intéressent. 1 Corinthiens 13, pour lutter contre la médisance. Vous voyez, là, je passe d'un conseil, d'une instruction à une autre sans le faire chronologiquement. 1 Corinthiens 13. Voyons, on va juste lire là, 4, 5 et 6. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout. Il supporte tout. Je crois que de méditer ces quelques versets peuvent nous aider à ne plus être médisants. C'est un piège dans lequel on peut tomber. Alors, troisième, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce. Vous savez que c'est important d'avoir beaucoup d'espérance, une entière espérance. Le mot entier revient souvent dans certaines attitudes. Vous voyez, une entière joie, une entière paix, une entière confiance, une entière espérance dans la grâce. Vous croyez dans la grâce? Vous y croyez dans la grâce, cette faveur imméritée? C'est une instruction. Croyez dans la grâce de Dieu. Ne croyez pas dans vos efforts, ne croyez pas dans vos actes, ne croyez pas dans vos mérites, ne croyez pas dans vos progrès. Espérez dans la grâce. Cet après-midi, on en parlait à Balma, c'est notre frère qui a porté la prédication de la parole de Dieu, et il indiquait par rapport justement au fait d'être exaucé, à ne pas s'appuyer sur nos expériences passées. On a jeûné, et là, on va dire, voilà, je vais m'appuyer sur le jeûne. Non, merci Seigneur si on a envie de jeûner, mais appuyons-nous sur la grâce. Tout est grâce. Vous comprenez mes frères et sœurs, ne nous appuyons jamais sur nos efforts et sur nos expériences passées, quels que soient les moyens qu'on a utilisés pour les avoir. Verset 14, quatrième instruction. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Là aussi il y a des textes où Paul nous dit, mais attention de ne pas revenir en arrière. De ne pas vous conformer. Dans Romains au chapitre 12, chaque verset peut être... argumenté par plusieurs textes, mais voyez, quand il dit Romains chapitre 12 verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand Jacques dit, celui qui se rend ami du monde, il sera ennemi de Dieu. Un jeune me disait ce week-end, il me dit, mais est-ce qu'un chrétien il peut faire du sport? Est-ce qu'un chrétien il peut faire du vélo? Non, mais ne riez pas, ça m'a été posé il y a 48 heures. Moi, je pense qu'il y a des choses saines. Mais vous savez, il y a des gens qui, dans certains milieux religieux, ont reçu un enseignement comme tout est mauvais. Tout. Et ça les perturbe. De tout petit, on leur a dit que fêter un anniversaire, c'était pas bien. C'était diabolique. Disons les mots comme ils sont. Aller faire un peu de tennis, c'est diabolique. Vous voyez, mais ça, c'est grave parce qu'on a détruit des gens. Et le témoignage a été déplorable. Bien sûr que si une activité, si saine soit-elle, prend la place de Dieu, si vous allez faire du tennis le dimanche matin, il est certain que ça devient une véritable idole. Ainsi de suite. Mais la Bible est certaine, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, mais il y a des choses qui sont bonnes. Et ce chrétien, ce croyant qui découvre l'évangile, me dit, mais est-ce qu'un chrétien a le droit d'aller faire du ski? Pour lui, il n'avait pas le droit. Parce que c'était mondain. Je crois que il faut trouver cet équilibre et savoir exactement ce qu'on peut faire. Par contre, se conformer aux convoitises, c'est autre chose qu'à certaines activités saines. Verset 15. Tout ça, je vous encourage à le méditer et à laisser le Seigneur nous éprouver, nous aider à nous examiner nous-mêmes. Verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans toute votre conduite. D'ailleurs, que l'on soit dans un moment de travail, que l'on soit dans la détente, ou que l'on soit, on doit avoir un comportement sain. Oui ou non? Si je vais justement faire du ski, ça ne m'autorise pas à faire n'importe quoi. Où que je sois, avec qui que je sois, je dois avoir une attitude sainte. D'ailleurs, c'est le Notre Père qui nous l'enseigne, que ton nom soit sanctifié. En toute chose, on essaie d'avoir le comportement le plus correct possible. Verset 17, si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Ça, c'est une instruction. Conduisez-vous avec crainte. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Il a la haine du mal. C'est catégorique. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, et quand j'ai parlé, je ne sais pas si c'est ici, quand Dieu parle de Job,
Vous rappelez quand Dieu parle de Job, comment il le présente, quand il parle à Satan, tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne lui comme lui sur la terre. Il est intègre et droit, et il donne la définition, il craint Dieu et il se détourne du mal. Dieu lui-même donne la définition de l'intégrité, il craint Dieu et il se détourne du mal. Pendant notre séjour sur la terre, combien de temps va-t-il durer notre séjour? On ne le sait pas. Eh bien, conduisons-nous avec crainte. On a un saint respect, on en a parlé dimanche matin. Prochaine instruction, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous. Alors, comment il faut nous aimer? Ardemment, les uns les autres, de tout votre cœur. Alors, est-ce que c'est facile, ça? Ce n'est pas toujours facile. Mais oui, c'est un commandement. Et le Seigneur nous encourage à nous aimer les uns les autres. On fait des efforts. Il y a des gens avec qui c'est facile. C'est pas vrai? Est-ce qu'il y a des gens, ce n'est pas plus facile qu'avec d'autres? Est-ce qu'on est tous pareils? Il y a des gens, ce n'est pas toujours facile. Il faut faire des efforts. Eh bien, on les fait. Aimez-vous ardemment. Et c'est important dans une église que nous nous aimions de tout notre cœur, que nous apprenions à nous aimer. Rappelez-vous quand les juifs se plaignent, oui, la main de l'Éternel est trop courte, son oreille est sourde. Vous vous rappelez quand ils se sont autorisés à parler comme ça? Et Dieu va répondre. Non, non, non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Dieu n'a pas tardé à répondre. Il leur a dit, non, là, je ne suis pas d'accord. Vous allez trop loin. Vous savez, il y a des paroles où on va trop loin. Dieu dit, non, non, non. Ma main n'est pas trop courte et mon oreille n'est pas trop dure. Ce sont vos crimes. Et la Bible, nous, les crimes, pour nous, les criminels, c'est les tueurs, les assassins, les pédophiles et tout ce que vous voudrez. Mais dans la Bible, Jésus, il dit que celui qui n'aime pas son frère, c'est un meurtrier. C'est pour ça qu'il faut nous appliquer. C'est vrai, ça m'a fait de la peine. Celui-là, ça m'a fatigué, voilà. Mais on est conscient que Jésus nous comprenne vraiment, puisqu'il dit « aimez vos ennemis ». Il l'a dit le Seigneur. Il n'a pas dit « c'est pas normal que vous ayez des ennemis ». Il a dit « aimez vos ennemis ». Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre foi? Cette fois, Seigneur, il était sûr de son coup. Vous savez quand on parle comme ça, sera-ce cette fois? L'apôtre Pierre, il pensait faire un exploit ce jour-là. Cette fois, pardonner la même personne dans la même journée, c'est déjà pas mal. Non? Quelqu'un qui vous fait une crasse, 7 fois dans la journée. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il répond? Ah, tu veux un chiffre? Eh bien, je vais t'en donner un. Je vais t'en donner un. Ça ne sera pas 7 fois. Ça sera 490 fois. Et Pierre est tombé. Mais ça veut dire que le pardon, il doit être continuel. C'est un état d'esprit, le pardon. J'ai décidé de pardonner. Que ça me coûte, que ça ne me coûte pas, que ça entraîne des émotions ou pas, des pleurs ou pas, je pardonne. De la même manière que Christ a pardonné, vous avez vu la première parole de Jésus sur la croix? Il venait d'être... Vous avez vu tout ce qui venait de passer à 24 heures? Vous avez vu tout ce que Jésus a passé les 24 dernières heures sur le bois de la croix? Enfin, de Gethsémané, on a un cantique, vous savez, de Gethsémané à Golgotha. La première parole de Jésus, il vient d'être crucifié, ensanglanté, il a été couronné d'épines, on lui a arraché la barbe, il a été flagellé, il a saigné des grumeaux de sang. Enfin, moi, c'est long, c'est très très long. Et la première parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Partez du principe où les gens qui vous ont fait une entourloupe, ils ne savent plus ce qu'ils font. De toute façon, c'est un principe. On ne peut pas aimer si on ne pardonne pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, c'est la seule façon d'aimer ardemment quelqu'un. Oui, et moi je suis rassuré quand Jésus dit, mais aimez vos ennemis. Ça prouve qu'il y a des gens avec qui il y a un conflit. Il y a une difficulté, mais ça ne fait rien, je les aime. Comment? Ben, je ne leur saute pas au cou. Seigneur, bénis-les. Je te prie pour telle personne. Le courant ne passe pas, mais Seigneur, je te prie pour elle. Du plus profond du cœur. Dieu voit qu'on fait des efforts. Vous savez, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Et je crois que ça paye vraiment. En tous les cas, c'est une instruction qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Verset 1er du chapitre 2, « Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance. » Alors, on ne va pas passer sur tous ces comportements. Mais justement, mes frères et sœurs, c'est de mon devoir de vous aider à veiller sur votre âme. Et ne pouvez-vous pas prendre un dictionnaire et dire « Mais c'est quoi l'envie exactement? C'est quoi la dissimulation? C'est quoi la ruse ?» C'est quoi? Alors, prenez un dictionnaire, on n'a pas le temps de voir tout ce soir, et franchement, faites-le. Et vous verrez, ah mais c'est vrai. Moi, vous voyez, quand j'étudiais la médisance, je me suis rendu compte que j'étais médisant. Eh ouais, j'ai honte, mais c'est la vérité. C'est la vérité. J'ai honte, j'ai vraiment honte. Mais ça m'est arrivé des fois de dire à un frère, tu sais, ce gars, il a fait ça, ça ne servait à rien. Des fois, ça peut arriver qu'on soit contraint de dire quelque chose, il s'est passé ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, c'est nécessaire. On peut rapporter un fait. Ce n'est pas forcément de la médisance. Mais quand on le fait, dans l'intention quand même de critiquer, c'est de la médisance. Moi, je l'ai dit. J'ai demandé pardon au Seigneur, j'en ai honte. Mais je ne vais pas jouer la comédie avec vous. J'entame ma 14e année avec vous. Je ne vais pas faire du cinéma. Je vous le dis pour vous dire qu'on est tous à la même enseigne. Et il faut demander pardon. Seigneur, pardonne-moi, j'ai été médisant. Ça nous est tous arrivé. Mais voyez, c'est quelque chose qu'il faut absolument régler. Et si je le suis, eh bien, Seigneur, pardonne-moi. Ou si j'ai parlé mal, eh bien, dire à un frère, tu sais, je t'ai dit ça, frère, pardonne-moi, je regrette, je n'aurais pas dû te le dire. Voyez. Mais surtout, en demander pardon au Seigneur. Verset 2, désirer. Vous voyez, il y a des choses, il faut les rejeter. Verset 1, rejeter. Il y a des choses, il faut les désirer. Ça, ce sont des instructions. Seigneur, apprends-moi à rejeter. Apprends-moi à désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez. Donc, voyez, il met en opposition deux attitudes. Une qui nous consiste à rejeter des choses, une qui consiste à désirer la parole de Dieu afin de croître. Et comme l'a dit Jean-Baptiste, s'il croit, moi, je diminuerai. C'est une évidence, c'est une loi des choses. Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Voilà. Pas chercher la bénédiction, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Le chercher à lui. Vous savez, c'est une grande faveur pour un homme de chercher Dieu. Tu vois, ce matin, je me tiens devant toi, Seigneur. C'est vrai que je veux que ma famille soit bénie. Je veux que telle situation change. Mais je veux être avec toi. Approchez-vous de lui. Est-ce que c'est un plaisir pour vous? Est-ce que vous aimez? Voilà, même si vous n'avez qu'un petit quart d'heure. Ah, mais je veux le bichonner. Je veux être seul avec mon Dieu. Bien sûr que quelqu'un va dire, parce qu'il parlera trop vite, mais moi je suis avec Dieu toute la journée. Mais oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut être avec Dieu toute la journée? Dans toutes les occupations. Je suis convaincu qu'on peut faire tout en étant dans l'esprit de Dieu. Tout. Tout le long de la journée, du matin au soir qu'on se lève, ou qu'on se couche. Vous le croyez? Mais ça, quand même, ça ne remplacera pas un moment volontaire où on veut être seul avec lui, pour le plaisir d'être seul avec lui. Verset 5. Édifiez-vous, vous-même comme des pierres, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est important de s'édifier. Moi, j'ai la responsabilité de vous édifier, de vous instruire. Un pasteur, il doit nourrir. Mais vous aussi, vous devez travailler à édifier les autres et à vous édifier vous-même. C'est écrit, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Voilà. Vous aimez être édifié? Est-ce que vous aimez quand le pasteur vous donne la nourriture? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien aussi de se nourrir soi-même? Vous aimez aller au restaurant? Est-ce que vous aimez aller au restaurant? Est-ce que c'est bien quand tout est prêt? Hein? Je veux ça, 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 ça. Et ça arrive, tac, c'est à table. Mais est-ce que vous aimez cuisiner? Oui? Il faut aimer les deux. Il faut être servi, mais il faut aussi travailler. Et vous savez, quand vous faites votre culte personnel, vous ne vous rendez peut-être pas bien compte, mais vous travaillez pour édifier les autres. Parce que vous allez lire un verset, et dans la journée, vous allez peut-être le dire à quelqu'un, tiens, au téléphone, ah, tu sais, ce matin, j'ai lu ça. Et, ah bon? Mais ça va lui faire du bien. C'est une instruction. Oui, Seigneur, édifie-nous au travers du pasteur que tu nous as donné. Mais apprends-moi à m'édifier moi-même et à édifier les autres. C'est une grande bénédiction de nous appliquer à cela. Vous savez, c'est écrit dans Jude. Regardez-le. On ne lit pas tous les versets qui s'approprient à chaque instruction. Mais regardez dans Jude, juste avant l'Apocalypse. C'est une des instructions, c'est au verset 20. Je viens de vous la citer, mais je vous le lis. Pour que vous compreniez que c'est une évidence. Les gens attendent trop des autres, trop du pasteur, trop des responsables. Il faut que vous receviez, bien sûr, des serviteurs de Dieu. Mais vous pouvez vous-même être édifié. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant, aidez-moi. Comment vous avez dans votre Bible? Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Voyez quelqu'un qui scelle les reins de son entendement. Quand il lit ça, il dit, mais c'est vrai, Dieu m'a donné la foi. Quand j'entends un chrétien qui dit, ouais, j'ai la foi, mais je ne sais pas si j'ai la foi, je crois, mais voyez, il n'a pas scellé les reins de son entendement. Dieu vous a donné une mesure de foi. Amen. Vous le croyez? Voilà. Vous voyez, c'est ça, scindre les reins. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ma foi, c'est quelque chose de saint, oui, ce que Dieu vous a donné. Il ne faut pas dire, ouais, la foi, la foi, la foi. C'est pas ça. La foi, Dieu la caractérise comme étant sainte, sur votre très sainte foi. Vous voyez? Ça, c'est des choses. On continue. Verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles. Pourquoi? Parce qu'elles font la guerre à l'âme. Vous n'êtes pas des fois en guerre à l'intérieur du dedans? Ça ne vous arrive pas d'être en guerre? Non? Ça ne vous arrive pas, vous? D'être en guerre avec vous-même? Non? Rassurez-moi aussi. Voyez qu'ils font la guerre à l'âme. Il peut avoir à l'intérieur de notre âme une véritable guerre. Le seul moyen que cette guerre cesse, c'est de nous abstenir des convoitises charnelles. Il y a des choses charnelles, on le sait, et bien il faut s'en abstenir. Ça me provoque une guerre intérieure, ça me provoque un combat, un conflit inutile. Il y en a assez des combats normaux, sans rajouter des inutiles. Ça c'est charnel, ça c'est pas bien, je m'en abstiens. Abstenez-vous. Voilà. Si vous le faites, rien ne fera obstacle à vos prières. Un chrétien qui je parle des fois, parce qu'hélas, je l'entends, que des chrétiens regardent des programmes impurs à la télévision, ne vous attendez pas. Ne vous attendez pas à ce que vos prières soient exaucées, même si Dieu fait grâce malgré tout. Attention. Verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. C'est bien d'avoir une bonne conduite à l'église. Est-ce que c'est important d'avoir un bon témoignage à l'église? C'est important d'avoir un bon témoignage à l'église. J'ai entendu une dame un jour venir me rapporter le fait qu'elle a vu dans une église une chrétienne qui a failli mettre une gifle à une autre chrétienne. Vous savez, ça m'a brisé le cœur, ça. S'il y avait un païen à côté qui assistait à la chose, vous vous rendez compte, quand on en arrive là, c'est qu'on n'a pas compris grand-chose, croyez-moi. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient, vous voyez là on n'est plus dans la misère, la calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Est-ce que Dieu peut visiter les gens qui nous calomnient? Eh oui. Verset 13, autre instruction, soyez soumis, alors on va toucher un sujet qui fâche, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi, comme au souverain, soit au gouverneur, etc. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie, pas dans le ciel, parmi les hommes. Est-ce que nous voulons que nos prières soient exaucées? Mes frères et sœurs, il faut être soumis aux autorités. Nous devons savoir quelles sont les autorités qui sont au-dessus de nous. C'est vos parents. Est-ce qu'il faut être soumis à ses parents? Est-ce que quand on est majeur, il faut continuer à se soumettre à ses parents? Mais oui. On en a parlé dernièrement, je ne vais pas revenir là-dessus. À moins qu'il vous demande, si bien sûr un père dit à une fille de 18 ans, je ne veux pas que tu ailles à l'église, là il faut qu'elle obéisse à Dieu. Mais mes frères et sœurs, je pense vraiment que là souvent, l'ennemi nous a coincés. Il faut savoir quelle est l'autorité qui est au-dessus de moi. Dans ma famille, dans mon entreprise, dans la société. Quelle est l'autorité? Je dois m'y soumettre. Qu'il en soit ainsi. Plus loin, au verset 17, il continue. Il continue. Là, il demande plus de la soumission, parce qu'on peut se soumettre dans un mauvais état d'esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut le faire en serrant les dents. Vous comprenez? J'obéis. 1 Pierre, chapitre 2, verset 17. Honorez. Vous m'aidez? Aimez les frères et les sœurs, bien entendu. Craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Est-ce que vous honorez les frères? Est-ce qu'on s'honore entre nous? Est-ce que c'est important? Eh ouais. C'est écrit par honneur, usez de prévenance réciproque. C'est pour ça que c'est important, la politesse. Moi, je suis extrêmement gêné quand je vois des chrétiens qui sont impolis, qui ne savent pas dire merci. Il y a des gens, ils disent, moi j'entends des parents qui me disent, mes enfants ne me disent jamais merci. Et moi, ça, je ne le comprends pas. On devrait dire continuellement merci aux gens. C'est pas vrai? Oui. Et ce sont des petites choses, mais vous savez, c'est qu'il ne faut pas grand-chose, des fois, dans un rouage, pour bloquer le mécanisme. Un petit grain de sable, ça peut bousiller tout le mécanisme. Un petit grain. Et l'ennemi, il le sait très bien. Par honneur, user de prévenance réciproque. C'est important, ça rejoint ce qu'on a lu tout à l'heure, aimez-vous ardemment les uns les autres. Verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, bon, parce qu'il y a des serviteurs qui sont bons, des maîtres qui sont bons, mais il y en a qui sont, comme dit la suite, d'un caractère difficile. Est-ce que ça arrive, ça, que des gens aient un caractère difficile? Vous avez peut-être un patron qui a un caractère difficile, ben, ça peut arriver. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Et au verset 23, il nous est dit que nous avons un exemple, c'est Jésus, lui qui injurié, ne rendait pas d'injures, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Vous voulez que Dieu s'occupe de vous quand on vous a maltraité? Eh bien, vous n'en parlez qu'à Dieu. Jésus nous a donné l'exemple. Jésus avait le pouvoir d'intervenir comme juge. Même s'il est venu comme sauveur, il aurait pu s'autoriser à exercer de la justice, oui ou non? Mais lui, il s'est contenté, lorsqu'il était maltraité, de s'en remettre à celui qui juge. Et voyez, ça c'est une instruction. Si nous voulons que Dieu s'occupe de certaines affaires, ne nous en occupons pas nous. Remettons-en au pied du Seigneur. Seigneur, tu m'as donné un exemple? T'étais injurié, t'étais calomnié, t'étais maltraité, que faisais-tu? Tu t'en remettais au Dieu vivant? Eh bien Seigneur, tu vois dans cette affaire, s'il en est ainsi, rien ne fera obstacle à vos prières. Et les chrétiens, de suite, ils se défendent, ils attaquent, on m'a fait ça, et je vais lui renvoyer un chien de ma chienne. Et voyez, et après on s'étonne que nos prières ne soient pas exaucées, que les églises restent tièdes, combien c'est malheureux. Chapitre 3, on a souvent utilisé le verset « qu'il en soit ainsi » à partir du chapitre 3. Mais ça remonte au verset 11 qu'on a vu, ou 12 qu'on a vu tout à l'heure. « Femmes, que chacune de vous de même soit soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » Vous voyez, c'est dans un foyer. Après, il est dit au verset 7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. » Honorez-la un petit peu plus loin. Dans un couple, mes frères et sœurs, dans un couple. Je parlais dernièrement avec madame qui, vous savez, a son mari dans le coma depuis 10 ans et demi, 11 ans et demi. Elle me disait, quand je vois des couples se chamailler pour des bricoles, hein, elle me dit, ça me brise le cœur. Vous comprenez, je veux dire? Il y a une grande bénédiction dans le couple. C'est Dieu qui a institué le mariage. Le mariage, il faut qu'il soit honoré. Dans un foyer, si on doit être entre frères et sœurs, plein d'affection, attendez, à combien plus forte raison dans un couple? On doit être plein de tendresse. S'il y a bien deux endroits où on doit être bien, c'est à la maison et à l'église. Oui ou non? Quand j'entends une chrétienne qui me dit, moi je reste le plus longtemps possible à mon travail, parce que je n'ai pas envie de rentrer à la maison, je trouve que c'est triste. Vous ne trouvez pas? Et après on prie, mais le Seigneur pourrait nous dire, comme il a dit, mais quand tu pries, ça ne sert à rien. Je t'ai donné mes instructions. Tu as une épouse, tu as un mari, et tu dois l'aimer. Il y a des choses qui te concernent par rapport à ton comportement envers ton conjoint. Il y a des choses que tu dois t'appliquer à faire, tu dois la considérer, l'honorer, la respecter. Et c'est pour ça, moi j'ai dit dernièrement déjà, moi si j'étais vous, je ne prierais plus. Vous perdez du temps. Je ne l'ai pas dit sur un coup de tête, je l'ai dit après avoir écouté consciencieusement les comportements. Moi, je crois que si Dieu dit, ça, il pourrait ne pas l'avoir écrit. Il l'a écrit. Pourquoi? Pour nous exaucer. C'est pas un sermon, c'est pas, de l'enseignement systématique, mécanique. Ce sont des paroles de Dieu. Dieu dit aux femmes, voilà, vous devez être soumis, vous devez être une aide pour votre mari. Il y a des femmes qui sont tout le temps en train de décourager leur mari. C'est vrai que les hommes ont leurs défauts, mais une femme, elle doit encourager son mari. Et t'as pas fait ça. Et pourquoi tu fais pas ci? Et encore. Bien sûr qu'il doit y avoir des reproches, mais je crois qu'il doit aussi y avoir de l'aide. C'est pas vrai? On a besoin d'être encouragé. Les hommes, on a besoin d'être encouragés. Les femmes aussi, et vice-versa. On est égaux de toute façon. Dieu a fait à l'homme une aide semblable. Nous sommes égaux, il n'y a pas de machisme dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de féminisme, etc. C'est ridicule, tout ça c'est mondain. Un chrétien, il dit, c'est vrai, tu m'as donné une femme, Seigneur, je veux l'aimer. Qu'est-ce que c'est qui lui ferait plaisir? Tu m'as donné un mari, qu'est-ce que c'est qui lui apporterait du bien? On a le souci de plaire à l'autre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ne me répondez pas. C'est pas vrai? Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Afin que rien ne vienne faire obstacle. Moi, quand je vois des gens, comment ils parlent des fois de leurs parents. Ouais, ma mère, c'est une folle. C'est ça, honorer ses parents? S'il en est ainsi, il y aura des obstacles à la prière. Et je crois qu'on veut le réveil. Vous voulez le réveil? On veut voir la gloire de Dieu. Dieu a institué la prière, je le répète, c'est que pour nous exaucer. Dieu a institué la prière, ce n'est que pour nous bénir. Dieu a institué la prière, c'est que pour nous faire faire des expériences de foi. Mais nous devons être vigilants. Et les instructions, elles sont là, je vous rappelle, dans l'original, il n'y a pas des chapitres, il n'y a pas des versets. Il y a une lettre qui se maintient ensemble et qui nous demande de veiller les uns sur les autres. Vous voyez, ne rendez pas, enfin, vous voyez, quand il dit bénissez, ne rendez pas le mal pour le mal. Quand on voit une épouse qui dit, ah ben, il m'a fait ça, eh ben, je l'attends au tournant. Que c'est triste. Après, on dit, Seigneur, bénis mon foyer. Non, je surmonterai le mal par le bien. Bénissez, c'est à cela que vous avez été appelés. Oh, des fois on chante des cantiques, vous voyez, participant de la nature divine. On a chanté tout à l'heure, rends-moi participant de la nature divine. Alors c'est clair, pour quelqu'un qui vient pour la première fois, c'est quoi ce charabia? Ça veut dire que Dieu veut que l'on soit avec lui, qu'on participe aux choses divines, aux choses célestes, aux choses spirituelles. Rends-moi participant. Comment un homme pourrait-il être participant à la nature divine s'il ne répond pas à la vocation? C'est à cela que vous avez été appelé. Alors je bénis ce pays, je bénis cette ville, je bénis l'assemblée dans laquelle tu m'as placé, je bénis mes frères et mes sœurs. Demain, avant de partir au travail, je vais bénir mon employeur. Bénir, ça veut dire, quand on prie pour quelqu'un, on le bénit. Ça ne veut pas dire, je veux que la bénédiction de Dieu soit sur lui. Ça veut dire, je veux que ta grâce repose, que ta volonté soit faite. Quand on prie pour les autorités, c'est pareil. Quand il dit, avant toute chose, de prier pour les autorités, ça veut dire, eh bien, que ta volonté soit faite. Que tu influences, Seigneur, les autorités. Pour les prochaines élections, moi je crois que c'est important de prier pour les prochaines élections. Seigneur, que ta volonté soit faite. On ne demande pas à Dieu que tel ministre soit béni matériellement. Seigneur, que ta volonté soit faite auprès des autorités. Avant toute chose, priez pour les autorités. C'est écrit. Mes frères et sœurs, si on avait la simplicité de prendre la première épître de Pierre et de s'appliquer à commencer à prendre un dictionnaire et après de faire avec les Colossiens, avec les Éphésiens, les lettres aux églises, je vous assure que des choses changeraient. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle. Et s'il y a un domaine qui ne va pas, eh bien on le règle. On n'est pas là pour jeter la pierre. Ceux qui l'ont fait, ça s'est mal passé pour eux. On n'est pas là pour jeter la pierre à quelqu'un. On n'est pas là pour agresser quelqu'un. Quel que soit le péché, quelle que soit la misère, quel que soit ce qui ait pu se passer, nous avons un Dieu qui répare les brèches. Alléluia. Et s'il en est ainsi, et si on est sérieux dans vos cultes personnels, si nous sommes sérieux, si nous commençons à dire, c'est vrai, je vais le reprendre, mon dico, ma concordance et ma Bible, et je vais commencer avec cette première épître, après je ferai la deuxième épître, et puis après je recommencerai avec les épîtres aux églises, vous verrez que, comme par hasard, bien beaucoup de nos prières seront exaucées. Et tout le monde dit, Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas soucieux avec ce que je viens de dire, ne priez pas. Demandez pardon à Dieu, repentez-vous, jusqu'à ce que tout ça se soit effacé, et après recommencez à prier. Mais ne vous illusionnez pas, ça ne sert à rien, ne continuez plus à prier pour que Dieu vous bénisse, si vous ne respectez pas ce que l'on vient de partager ce soir. Parce que la Bible dit que celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. On va fermer les yeux simplement. Vous êtes d'accord? Dieu sait où vous en êtes. Vous savez peut-être où vous en êtes. Il y a parmi nous des gens qui découvrent l'évangile. Voilà, vous avez entendu. De l'édification, ce n'est pas de l'évangélisation pour vous amener au salut. C'est de l'édification pour aider l'Église à avoir une véritable piété. On se recueille, on est sous le regard de Dieu. Il y a des gens qui parmi nous ne sont pas encore baptisés, qui découvrent l'Évangile. Mais c'est aussi pour vous, pour que vous compreniez ce qu'est véritablement marcher avec le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour l'œuvre du calvaire et pour la façon dont tu as accompli ton œuvre à Golgotha pour que nos péchés soient effacés et pour que nous soyons justifiés. Mais nous te remercions pour ta parole qui nous permet de pratiquer la justice, ce qui est juste. Seigneur, tu nous as rassemblés ce soir, tu savais qui se retrouverait dans ce lieu, tu sais ce que nous avons besoin d'entendre ou de réentendre, et nous te prions, Seigneur, pour que ta grâce soit sur nous et que tu nous donnes l'intelligence de méditer ta parole. Tu as dit qu'il était heureux l'homme qui médite ta parole. Nous comprenons pourquoi à la lecture de ces quelques versets de l'épître de Pierre. Seigneur, nous te recommandons vraiment l'Assemblée. Nous te recommandons l'Église, afin que les prochaines réunions, les prochains cultes, les prochaines réunions de prière soient bénies par ta présence. Que vraiment tout soit fait dans ce lieu, pour que nous tous, nous laissions bénir par ta parole, interpellés par ton esprit, afin de nous édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi, que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus. Amen.